Il est 9h40 sur France Inter et tout de suite c'est la médiatrice de nos antennes, Emmanuelle Davier. Salut Emmanuelle.
Salut Augustin et à lundi.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Bonjour à tous. Il y a 15 jours, la justice française a ouvert le procès des attentats djihadistes du 13 novembre 2015. Attentats les plus meurtriers commis dans notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. 130 morts, plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis. Cette nuit d'horreur a profondément traumatisé la France et le déroulement de ce procès est donc très suivi. 141 médias sont accrédités et France Inter a déployé un dispositif particulier pour suivre la plus grande audience criminelle jamais organisée dans notre pays. Mais avant même l'ouverture du procès, la couverture journalistique de cette actualité a suscité de très nombreuses questions de la part des auditeurs, questions parfaitement légitimes auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans cette émission avec Jean-Philippe Deniaud, chef du service police-justice de France Inter. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et Charlotte Piré du service police-justice qui suit ce procès pour France Inter aux côtés de Sophie Parmentier. Bonjour.
Bonjour. Le procès de la terrible nuit du 13 novembre 2015 a donc commencé sous le regard du monde entier.
20 hommes jugés pour ces attaques qui ont fait 130 morts, 1800 parties civiles.
Il faudra 9 mois à la cour d'assises spéciale pour arriver au bout de ce procès titanesque, le plus grand jamais organisé en France.
Beaucoup de questions des auditeurs. Ils s'interrogent tout d'abord sur la pertinence de couvrir l'intégralité du procès prévu donc pour durer 9 mois. Voici un message. J'apprends que vous allez feuilletonner les procès des attentats du 13 novembre chaque jour pendant 9 mois. Outre le fait que vous prolongez et servez le but des terroristes qui est fondamentalement un but médiatique, après 2 ans de Covid et de décompte des morts, vous maintenez la pression de la peur. Nous avons besoin de respirer et cela sans trahir la mémoire de personne, ni être dans le déni de faits sur lesquels nous sommes largement informés depuis des années. L'idée de suivre quotidiennement le procès est bien une idée de journaliste, c'est-à-dire avant tout un goût du spectacle. Et puis cette remarque d'un autre auditeur, l'enjeu du procès des événements du 13 novembre pose la question du traitement de l'information. Maintenir une information permanente jusqu'au terme du procès, comme cela a été annoncé, engage des conséquences multiples. La première, c'est la caisse de résonance offerte aux islamistes. La conséquence qui en découle est l'alimentation dans l'arène politique du climat sécuritaire dont nous savons à qui il profite. Jean-Philippe Deniaud, pourquoi est-il nécessaire de couvrir l'intégralité du procès?
Alors, d'abord, c'est un choix. J'aime beaucoup votre auditeur qui dit que c'est bien là une idée de journaliste. Eh bien, oui, parce que j'ai envie de dire que c'est un peu une réponse fondamentale à une question fondamentale. En règle générale, un journaliste couvre un fait d'actualité d'un bout à l'autre pour en faire une restitution la plus fidèle possible. En fait, on ne se pose jamais la question pour un match de foot qui dure 90 minutes, pour une séance de questions gouvernement à l'Assemblée nationale qui va durer 2 heures, ou pour un procès en comparution immédiate qui va durer 20 minutes. Là, on s'est posé la question, bien évidemment, parce que c'est un événement de 9 mois que ça impose de dégager des moyens déjà. Et puis, on a cherché le sens. Alors, ce procès, je pense que c'est une page d'histoire, une histoire collective et une histoire individuelle, une somme d'histoires individuelles. Il va y avoir pendant 9 mois des débats sur les préjudices qu'ont subi les victimes et leurs familles, des débats sur l'enquête, des débats sur la gestion politique de toute cette phase d'attentat et de la lutte antiterroriste. Et puis, in fine, il y aura aussi des débats sur la culpabilité de chacun des 20 accusés. Alors, si on couvre ce procès qu'au moment qu'on juge les plus saillants, les plus spectaculaires, les plus émouvants ou je ne sais quoi d'autre, quelque part, on va passer à côté de ce rendez-vous avec l'histoire.
Et vous ne craignez pas la saturation ?
La saturation des pour auditeurs, les auditeurs ou... Non, je pense que le procès, déjà, les débats vont avancer. On va aborder des tas de thématiques, comme je viens de le décrire. Donc, on va avancer dans ce processus. Et puis, je crois sincèrement qu'on a un besoin d'explication. Voilà, et puis on va doser, bien évidemment.
Et puis tout simplement, on est aussi là dans une mission de service public.
Absolument, et c'est pour ça qu'on a choisi de faire l'intégralité des débats avec Charlotte Piret et Sophie Parmentier via le web, tous les jours. Et puis il y a les live tweets également de Charlotte et de Sophie pour suivre en direct, entre guillemets, les débats tels qu'ils se déroulent.
Jean-Philippe Deniaud, un procès d'une telle ampleur se prépare longtemps à l'avance. Vous l'avez dit, il faut dégager des moyens. Quel dispositif avez-vous mis en place?
Alors, déjà, soulignons que Charlotte Pierre et Sophie Parmentier travaillent sur les attentats du 13 novembre 2015. Depuis le 13 novembre 2015, depuis cette nuit-là, elles ont suivi vraiment toutes les étapes de l'enquête pendant 5 ans. Et puis, pour préparer ce procès en particulier, eh bien, elles sont détachées depuis le printemps pour réaliser ce vaste dossier à la fois à la radio et pour le site internet de France Inter, où on a pu lire, avant même que les débats commencent, déjà une quarantaine de sujets, de portraits et d'explications pour tout comprendre des enjeux.
Charlotte Piret, au-delà de ce que vient de décrire Jean-Philippe Degnaud, comment vous vous êtes préparée ?
En travaillant beaucoup, en fait. Je pense que la clé, elle est là. Effectivement, c'est un procès d'ampleur et je pense que pour en rendre compte de la meilleure manière qui soit, c'est une grosse masse de travail. Jean-Philippe en parlait, effectivement. Sophie et moi, on travaille depuis le 13 novembre, en fait, là-dessus. Donc, on a une connaissance du dossier assez complète. Et après, plus récemment, on a rencontré un maximum de personnes. Évidemment, beaucoup de victimes, mais aussi des acteurs professionnels, avocats, de la défense, des parties civiles, magistrats, etc. Ça permet, avant même d'arriver, d'avoir l'idée la plus complète de qui sont les personnes qui vont se saisir de ça, comment ça va se jouer, quels sont les enjeux, comment chacun a évolué avec cette histoire aussi, parce que les gens aujourd'hui, notamment les victimes, ne sont pas exactement dans la même position, dans le même état d'esprit, dans le même avancement personnel qu'elles y étaient il y a 6 ans. Et donc tout ça, voilà, c'est un travail qu'on a fourni, c'est comme ça qu'on s'y est préparé finalement.
Abdeslam se lève, regard noir exorbité au-dessus de sa grosse barbe. Vous ne faites pas attention aux gens, dangereux ou pas, on a des droits et on est traités comme des chiens, lance le détenu le plus surveillé de France.
On a combattu la France, on a visé des civils. Une attaque justifiée, selon lui, par la politique étrangère de François Hollande en Syrie, qui savait, assure le principal accusé, debout à l'extrémité du box, qu'à cause de sa décision d'attaquer des Françaises et des Français allait rencontrer la mort. Les avions français ne font pas la distinction entre les hommes, les femmes et les enfants. Alors, on a voulu que la France subisse la même douleur que nous subissons.
Le franco-marocain Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos téléguidés par le groupe État islamique, a suscité beaucoup de messages des auditeurs. On commence par celui-ci. Fidèle auditrice de France Inter et tout autant admiratrice, je suis cependant choquée par la tribune médiatique que les médias offrent à ce terroriste, seul rescapé des attentats du 13 novembre. Je ne le nomme pas exprès pour le laisser dans son ignorance. Avant d'être une petite frappe sans intérêt qui se double d'un lâche, il se retrouve à la une de tous les médias comme un héros pour tous ceux qui lui ressemblent. On attend qu'il parle alors qu'en réalité on aimerait qu'il disparaisse. Un autre auditeur ajoute « Pourquoi nommez-vous en permanence le nom du terroriste que je connais maintenant par cœur mais que je ne veux pas citer ici? C'est un nom qu'il faut ignorer. Si vos journalistes continuent à le citer, cela signifie qu'ils veulent promouvoir cet individu et augmenter sa notoriété. » Alors Jean-Philippe Degnaud, des auditeurs, estime donc que citer le nom du terroriste, ça propulse sa glorification, sa forge, sa starification morbide. Ils demandent donc de ne pas le nommer. Que leur répondez-vous ?
Alors, c'est une question, j'avoue, qui se pose fréquemment et tout le temps, et à laquelle je pense qu'il n'y a pas de réponse évidente au stade de l'enquête, c'est-à-dire au moment où l'attentat se produit, et dans les jours qui suivent, les mois qui suivent pendant l'enquête. Mais là, on est au stade du procès. Ces hommes sont en face de leur juge. Ils doivent être, à mon avis, médiatiquement traités comme tous les accusés qui comparaissent en cour d'assises ou tous les prévenus qui sont devant un tribunal correctionnel. Il ne s'agit pas de les promouvoir, comme dit notre auditeur, ou encore moins d'en faire des héros, mais simplement, nous, on est là pour restituer la réalité de ces audiences dans laquelle ils sont présents en face de leurs victimes. Ils sont là. Cette question, elle pourrait se poser pour n'importe quel procès et pour n'importe quel accusé, n'importe quel prévenu. Est-ce qu'on doit nommer un malfaiteur? Est-ce qu'on doit nommer un homme politique? Est-ce qu'on doit nommer un polémiste raciste qui comparaisse? On n'est pas là pour promouvoir, on n'est pas là pour en faire des héros, on est là simplement pour restituer ce qu'il se passe. Et question, qu'est-ce qu'on gagnerait à taire leur nom?
Charlotte Piret.
Il y a aussi une autre dimension qui est celle de la clarté, en fait. Ils sont 20 accusés à ce procès. Si on ne les nomme pas, comment on rend-on compte? Comment on distingue les uns des autres? Ou pourquoi est-ce qu'on nommerait certains des accusés et pas Salah Abdeslam? Sur quels critères complètement arbitraires, finalement, on le ferait? Donc, il y a aussi ce besoin de rendre compte de ce qui se passe à l'audience.
Alors, des auditeurs considèrent également que le procès offre à Salah Abdeslam une tribune médiatique à son bagage propagandiste. Dès le début du procès, ses prises de parole ont pris la forme de provocation et de coups d'éclat. Je vous lis un message d'auditeur. Il est absolument insupportable que nous ayons à entendre les débilités fanatisées du déchet islamiste. Vos journalistes qui se complaisent à donner audience à cette ordure ne se rendent même pas compte qu'il lui déballe un tapis rouge médiatique qui fait de ce déchet un héros. Donc nous écrit cet auditeur, Charlotte Piré, comment restituer les faits, comment donner à entendre les propos tenus dans la salle d'audience sans offrir une tribune médiatique à Salah Abdeslam?
En fait, toute la question, je pense, est celle de la juste place. C'est-à-dire, évidemment, qu'il faut qu'on rende compte de cette parole. Au nom de quoi la tairait-on? Ce serait une censure qui n'a aucune justification. Et en même temps, effectivement, l'idée n'est pas de lui offrir plus de place qu'elle n'en a à l'audience. Donc c'est tout cet équilibre entre à la fois raconter les prises de parole de Salah Abdeslam et aussi raconter les prises de parole des autres accusés et de tout ce qui se passe à l'audience. Et c'est ce qu'on s'astreint à faire avec Sophie Parmentier, à la fois sur l'antenne et sur le site internet de France Inter. C'est véritablement de raconter tous les éléments saillants de l'audience. La prise de parole de Salah Abdeslam en fait partie.
Mais alors donc vous tentez cet équilibre et malgré tout vous n'avez pas eu parfois le sentiment peut-être de tomber dans le piège de la manipulation?
C'est une question qu'on a évidemment à l'esprit en permanence. Hein. On réfléchit au fur et à mesure de ce procès, bien sûr. Je pense que non, pour plein de raisons. C'est-à-dire que quand on raconte ce que dit Salah Abdeslam à l'audience, on raconte aussi comment le président, par exemple, l'a recadré. Qu'est-ce qu'il a opposé? Quand il y a un avocat de défense ou de partie civile qui intervient en réaction, on le dit aussi. C'est-à-dire que nous, on retranscrit une scène avec la parole des différents acteurs de cette audience. Donc ça permet de aussi faire une sorte de contrepoids, finalement, à cette parole-là. Et on raconte aussi, par exemple, que les autres accusés, parce que c'est aussi un fait notable, les 13 autres qui sont là, sont sur une tonalité complètement différente de celle de Salah Abdeslam, avec des propos qui n'ont rien à voir et une attitude à l'audience qui est très différente aussi, et ça aussi on l'a expliqué.
Charlotte Piré, vous êtes très aguerrie dans l'art de faire vivre l'audience quasiment en direct sur votre compte Twitter, Jean-Philippe Degnaud l'a mentionné tout à l'heure. Les tweets que vous avez écrits au sujet de Salah Abdeslam ont-ils davantage fait réagir que les autres?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est d'ailleurs là tout le paradoxe de cette question. J'ai pas de proportion en tête, mais effectivement, n'importe quel tweet qui reprend une citation d'une phrase de Salah Abdeslam, il est commenté, il est retweeté. Beaucoup sont extrêmement violents envers Salah Abdeslam hein, et décrit tous les supplices qu'il faudrait lui imposer. Oui, effectivement, ça fait énormément réagir. C'est d'ailleurs tout le paradoxe. C'est à la fois on nous reproche de le relayer et en même temps, enfin, certaines personnes peuvent nous reprocher de le relayer et en même temps, c'est ce qui fait le plus réagir.
Donc il y a
c'est
bien ainsi. Un intérêt pour le
Sans doute.
Les auditeurs ont également fait part de leur incompréhension au sujet des bruits et sons de fusillades diffusés dans les reportages consacrés à la nuit du 13 novembre 2015. Je vous lis des messages. Durant un reportage sur le Bataclan, il y a eu la diffusion d'un son de fusillade. Je ne comprends pas la diffusion d'un tel son à une heure de grande écoute. Il me semble que France Inter a établi sa notoriété sur son sérieux et sa diversité, pas sur les effets de buzz. Et je pense que cela relève du voyeurisme malsain. Et puis, un autre message que personnellement je trouve très intéressant. Je suis bouleversée par ces témoignages des rescapés du Bataclan, mais en colère de votre besoin d'intercaler des effets sonores de coups de feu. Quel intérêt de scénariser ainsi ces récits tellement poignants? Vous auriez été Netflix, j'aurais compris. Mais là, vous ôtez une part de crédibilité à ces personnes. Leurs mots seuls auraient suffi. On n'est pas au cinéma. Jean-Philippe Degnaud, que répondez-vous à ces auditeurs?
Alors, il y a une grande part de ressenti, évidemment. On n'a pas tous la même oreille à ce que l'on écoute, à ce que l'on entend. Mais avant, je voudrais préciser des choses par rapport à votre dernier auditeur qui parle d'effets sonores, de scénarisation et de cinéma. Non. Ce ne sont pas des effets sonores que nous avons rajoutés. Ce sont les véritables bruits de cette véritable tragique soirée que nous avons, entre guillemets, glissé sous les témoignages ou sous les commentaires des journalistes. C'est une illustration du réel par du réel. On fait de la radio, hein. On fait de la radio. Dans n'importe quel témoignage, on peut rajouter des ambiances, comme l'on dit dans notre jargon, des ambiances qui ne font que appuyer, illustrer
le réel.
Alors après, on peut trouver que c'est trop. En tout cas, je veux bien insister sur le fait qu'on n'a pas cherché à faire du buzz ou de l'effet sonore, mais cherché à représenter autrement la réalité.
Rendez-vous de la médiatrice.
La terrasse de la Belle Équipe était bondée. Ce vendredi 13 novembre 2015, à certaines tables, on fêtait des anniversaires quand les terroristes ont surgi avec leur Kalachnikov.
Depuis hier, Charlotte, on est entré dans le très dur, si j'ose dire, les images et les sons de ce soir du 13 novembre.
Oui, c'est véritablement la plongée dans l'horreur et vous l'avez dit, ça va continuer là encore aujourd'hui avec le Bataclan. C'est quoi concrètement? Ce sont les images d'un kamikaze qui explose devant le Stade de France, ce sont des gens qui s'effondrent en terrasse de la Bonne-Bière, ce sont les terroristes qu'on voit bouger la Kalachnikov à la main, qui visent des personnes déjà à terre.
Chaque vendredi, la chronique Arrêt sur audience propose dans le journal de 13h de Bruno Duvic de revenir sur les faits marquants et les coulisses de ce procès inédit dans l'histoire judiciaire française. Pourquoi raconter les à côté ou évoquer les personnages que vous croisez dans cette salle d'audience, Charlotte Piret?
Parce que tout ne se passe pas dans la salle d'audience, en fait. Il y a aussi énormément d'à côté, puisque nous sommes très nombreux, à la fois les parties civiles et tous les professionnels qui prenons part à ce procès-là, à nous voir tous les jours, à partager des moments de suspension d'audience. Et il y a aussi des choses. C'est une espèce de très grande aventure humaine aussi qui se joue là. Et c'est aussi intéressant, je pense, parfois de le raconter. J'ai en tête, alors ça ne s'est pas encore passé, et on verra d'ailleurs si ça se passe, mais à ce procès-ci des attentats du 13 novembre, mais j'ai en tête une scène qu'on avait racontée du procès des attentats de janvier 2015, donc Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher, où on a vu, lors d'une suspension d'audience, par exemple, certaines parties civiles aller s'approcher du box des accusés pour échanger certains mots. Je trouve que c'est aussi des moments qui sont importants parce que ça permet de comprendre ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Et voilà, ça permet aussi de raconter ces instants-là que de parler des coulisses, comme on dit.
Vous avez expliqué il y a quelques instants la difficulté qu'il pouvait y avoir à restituer la parole du principal accusé. À quelle autre difficulté êtes-vous confronté lors de ce procès ?
Celle de l'énormité de ce procès, en fait. Les 9 mois, on en a parlé, la durée, comment on tient, comment on raconte en restant pertinent jour après jour, comment on tient à titre personnel aussi, la fatigue, peut-être parfois des moments de lassitude ou de difficultés un peu plus. Et puis le nombre de personnes concernées, on est 141 médias accrédités, donc ça vous laisse imaginer aussi le nombre de confrères avec lesquels on travaille en même temps sur les mêmes lieux. Donc c'est vraiment le côté surdimensionné un peu de cette audience-là, qui je pense est le plus difficile à gérer finalement.
Alors précisément, vous avez dit, bon, on a compris, les journalistes ne sont pas des machines, ils peuvent être aussi fragilisés lors de certaines audiences. Y a-t-il un dispositif d'accompagnement, de soutien psychologique?
Oui, c'est la première fois que c'est mis en place de cette manière. En fait, l'association Paris Aide aux Victimes, qui est là tout d'abord pour aider les parties civiles qui sont à l'audience ou même celles qui suivent l'audience via la web radio, a étendu son dispositif aux professionnels, donc journalistes inclus. Et on a la possibilité d'aller rencontrer quelqu'un de Paris Aide aux Victimes si le besoin s'en faisait ressentir.
Et Jean-Philippe Deniaux s'est complété également par la présence d'un médecin qui est spécialiste dans l'accompagnement des reporters qui reviennent des terrains de guerre.
Oui, ça fait partie du dispositif qu'on a mis en place avec Paris Aide aux Victimes. On peut rencontrer soit un accompagnant qui est présent, comme le disait Charlotte, soit un accompagnant au téléphone, soit rencontrer un psychologue, et notamment ce psychologue spécialiste du traitement, comme on dit, du traitement des reporters sur le terrain de guerre.
Charlotte Piret, merci d'avoir pris le temps de partager avec nous la complexité de la couverture journalistique de ce procès historique que vous couvrez donc aux côtés de Sophie Parmentier, je le rappelle. Et merci à vous, Jean-Philippe Deniaux, d'être venu répondre aux questions des auditeurs que je voudrais remercier également, car vous êtes très nombreux à nous écrire, et pour nous c'est précieux, vous nous faites parvenir vos avis, vos remarques, vos critiques, vous nous donnez ainsi l'occasion d'expliquer nos pratiques, l'occasion aussi d'évoquer les coulisses du métier de journaliste et de décrypter les choix éditoriaux dans le contexte d'une actualité particulièrement dense. Faire ce travail d'explication est pour nous capital, puisque cela nous permet de lever toute ambiguïté sur la manière dont nous remplissons notre mission d'information en tant que service public. Chaque vendredi, vous pouvez retrouver la synthèse des remarques des auditeurs de France Inter dans une lettre. Il suffit de vous y abonner en allant sur le site médiatrice de Radio France. À la réalisation de cette émission aujourd'hui, Anne-Cécile Perrin, et à la technique, Anne-Laure Cochet.